Est-ce que vous aimez les animaux? Vous les aimez comment? Vous aimez les voir, vous aimez aller les visiter au zoo, vous aimez avoir des animaux de compagnie, un chat, un chien, ou bien est-ce que vous les préférez dans votre assiette? Il y a bien des manières d'aimer les animaux, n'est-ce pas? Ce sont des compagnons de vie auxquels on s'attache. Et puis, on a aujourd'hui, je pense, encore peut-être plus que par le passé, le souci de les protéger. On se rend compte que des espèces sont menacées et des mesures sont prises pour les sauvegarder. Et on en arrive à des situations qui sont tout à fait étonnantes. On voit que, dans certaines régions, les loups ont la priorité sur les agneaux. En Valais, par exemple, on sait que certains troupeaux de moutons sont parfois attaqués par des loups, mais le loup est plus protégé que l'agneau. Et notre rapport aux animaux change depuis quelques années. On est aussi devenu beaucoup plus sensible à la souffrance animale. La loi accorde des droits aux animaux. La loi fédérale, il y a en droit suisse, depuis quelques années, ça fait je crois une douzaine d'années, les animaux ne sont plus des choses, mais des êtres sensibles. Donc on a changé la manière de considérer les animaux dans la loi même. Il y a des prescriptions très strictes sur la manière de procéder à l'abattage. Les mauvais traitements infligés aux animaux sont punissables dans un certain nombre de cas. Et il y a une loi fédérale sur la protection des animaux où il est question de la dignité des animaux et du bien-être des animaux. Et par animaux, on comprend surtout les vertébrés. Et puis, vous savez aussi qu'un nombre croissant de personnes refusent de manger de la viande à cause des mauvais traitements infligés aux animaux de boucherie, qu'ils soient réels ou supposés, et aussi pour d'autres raisons. Les plus décidés de ces gens refusent même tout produit d'origine animale. Ce n'est pas seulement manger de la viande, mais c'est aussi le lait, les œufs, le fromage, ça ne va pas. Et puis même le cuir ou la soie, qui sont d'origine animale, sont refusés. Alors, on n'est pas là pour juger les personnes, mais essayer de comprendre parfois ce qui les motive. Et ce qui motive une partie de ces militants, parce qu'il s'agit là clairement de militantisme, c'est l'idée, et ça c'est quand même nouveau, que les animaux n'ont pas moins de valeur que les êtres humains. Ils sont, pour eux, nos égaux, et nous devons les traiter comme des égaux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce terme. Spéciste. C'est des autocollants de ce genre. J'en ai vu beaucoup, par exemple, en gare de Lausanne, sur les affiches, où il est question de l'affiche du Cirque Cni, spéciste. L'affiche pour le nouveau burger de McDonald's, spéciste. L'affiche pour les koalas du zoo de je ne sais plus quoi, spéciste. Spéciste, être spéciste, c'est comme être raciste envers les animaux. On en est là. Et vous voyez, cessons d'opprimer les autres animaux. Nous sommes des animaux, les autres aussi, on devrait les considérer comme nos égaux, ils n'ont pas moins de droits que nous. Et certains philosophes, c'est pas le thème de ma prédication, parce que je vais en venir assez rapidement à ce que la Bible nous dit des animaux et de nos rapports avec eux. Mais il y a un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer, qui a écrit un livre qui s'appelle « La libération animale », dans un livre dans lequel il explique qu'en fait, Les animaux ont des droits parce que ce sont des êtres sensibles qui peuvent souffrir, comme nous. Et ça, c'est la conception aussi américaine et anglo-saxonne du droit. Le droit n'est pas là pour garantir une liberté, mais il est là pour réparer les injustices qui sont faites à ceux qui ont des intérêts. Et on a intérêt à ne pas souffrir, par exemple. Et vous savez, vous avez déjà remarqué que, peut-être de moins aujourd'hui qu'autrefois, mais par exemple en France, lorsqu'on faisait un procès, qu'on voulait que le droit soit établi, les plaignants ne réclamaient pas des sommes faramineuses, mais un franc symbolique. Même si le dommage avait été plus fort, mais un franc symbolique pour dire, voilà, c'est pas parce que je suis intéressé à des dommages et intérêts que je porte plainte, c'est parce qu'il y a une question de droit qui ne joue pas. Et maintenant, souvent, on voit des groupements d'intérêts qui disent, ah, alors on va porter plainte contre tel et tel parce que, je ne sais pas, les batteries des iPhones fonctionnent pas assez longtemps, parce que ceci, parce que ça. Et puis, on va essayer d'obtenir un maximum de dommages et intérêts. Parce qu'on a souffert, quelque part, de quelque chose dont on n'aurait pas dû souffrir. Et alors, si on transpose ça aux animaux, ça donne une conception du droit assez étonnante. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une initiative qui a été déposée pour que les animaux puissent avoir des avocats pour les défendre en justice, au tribunal, en Suisse. Donc la mentalité évolue très rapidement par rapport à ça, aussi la conception du droit américaine, on est en train de la reprendre, et ça a des conséquences qui vont très loin, je ne vais pas en dire davantage, mais juste un exemple, Singer dit, mais en fait, une personne, je ne sais même pas s'il parle de personne, une personne handicapée mentale profonde a moins de capacité de relation, a moins de sensibilité, a moins de caractéristiques qui sont clairement celles des êtres vivants en bonne santé qu'un cochon ou qu'un agneau ou qu'une girafe ou qu'une souris. Un bébé, c'est pareil, il n'a pas encore développé tout ça. Et donc, on en arrive après, très rapidement, à des thèses en faveur de l'euthanasie. Il faudrait, ben finalement, il n'y a pas de, si on supprime les animaux en mauvaise santé, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'on, etc. C'est horrible. Alors, je crois qu'on va revenir maintenant à ce que nous dit la parole de Dieu, parce que je préfère. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, donc spéciste, c'est, si on vous traite de spéciste, maintenant vous saurez que c'est parce que vous traitez les animaux moins bien que les êtres humains, ou qu'on trouve que. Les animaux, dans la Bible, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Les animaux sont des créatures de Dieu, chacune selon son espèce. Alors j'ai mis quelques passages, ici Genèse 1, 20 à 25. Je vais le mettre comme ça que je puisse lire ce que j'ai mis là. Parce que... Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer, l'eau en pullula selon leur espèce. Dieu créa. Dans le récit de la création, on a parfois Dieu créa, parfois Dieu fit. Créer, c'est plus fort que faire. Et le verbe créer, bara, je crois, en hébreu, Bereshit, bara, Elohim, les trois premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La deuxième fois, c'est maintenant, dans ce passage, pour la vie animale. Et il y a une troisième occurrence de ce mot pour la création de l'homme. C'est comme s'il y avait là trois seuils importants dans le processus de la création. Entre-temps, il fait d'autres choses. Mais la création, il y a chaque fois un seuil. D'abord, il n'y avait rien et il y a quelque chose, les cieux et la terre. Ensuite, il n'y avait pas de vie, mais maintenant, il y a la vie animale. Et puis, il n'y avait pas l'homme et il y a l'homme. Créa, créa, créa. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour, Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela se passa ainsi, Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, que c'était bon. Créature de Dieu. Et puis, il y a un passage assez étonnant dans les premiers chapitres de la Genèse. C'est le moment où Dieu demande à l'homme, à Adam, de nommer, de donner un nom aux animaux. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. C'est un passage aussi où Dieu essaye de voir comment il peut, au fond, accompagner Adam et puis lui présente les animaux, ben, tu les nommes et puis tu regardes s'il y en a un dont tu vas faire ton compagnon. Puis après ça, Adam il n'est pas tout à fait satisfait et Dieu fait la femme. Mais nommer, donner un nom, je crois que c'est plus que simplement dire « Ah, ben, ça c'est la girafe et puis ça c'est l'éléphant et ceci, ça c'est le chien et ceci la souris. » C'est pas juste mettre des étiquettes. C'est comme si l'Éternel demandait à l'homme de participer d'une certaine manière à la création, parce que la parole, elle est créatrice d'une certaine, pour Dieu. Et s'il appelle l'homme à venir faire ce travail, c'est, je pense, que, au fond, c'est une manière d'associer, une manière de faire collaborer l'homme à la création. Et qu'est-ce qu'il mange ? Qu'est-ce qu'il mange l'homme ? Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. On est végétarien. Il n'y a pas de consommation d'animaux. Et les animaux sont tous herbivores. C'est assez fascinant de se dire, mais tiens, mais ça fonctionnait. Comment la nature, à l'époque, d'après la Bible ? Déjà, il ne pleut pas. Avant le déluge, il ne pleut pas. C'est une espèce de rosée qui vient pour humecter la végétation et lui permettre de croître. Il n'y a pas de pluie. On est végétarien et on vit très longtemps, même après la chute et avant le déluge. Mathusalem, 960, je ne sais plus combien. Enfin, des siècles, la vie humaine pouvait se prolonger sur des siècles. Donc, on est végétarien, il n'y a pas de pluie, les animaux ne se mangent pas entre eux, c'est le paradis terrestre. Alors, si vous pensiez que le paradis terrestre, il y avait aussi des McDo et puis des endroits où on peut aller manger un peu de viande, non, il n'y en a pas. Les animaux ne sont donc pas censés mourir, mais le péché va changer la donne. Le péché va bouleverser toute la création. Après la désobéissance d'Adam et Ève, qui mangent du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour devenir comme Dieu, ils se rendent compte qu'ils sont nus, et là, ils en ont honte, et Dieu leur fait des habits de peau. Ces peaux, elles viennent d'où ? Elles viennent, selon ma compréhension, c'est des peaux d'animaux. Et donc, il y a un premier sacrifice d'animaux qui est fait comme conséquence du péché de l'homme. Il faut commencer à tuer un animal. C'est ma compréhension. Hein. On peut peut-être le comprendre autrement, mais voilà. Les choses continuent et à un moment donné, comme vous le savez, il va y avoir le déluge. Et encore une fois, avant le déluge, tout le monde était végétarien. Avec le déluge, tous les équilibres sont bouleversés. S'il ne pleuvait pas avant le déluge, vous comprenez aussi les moqueries envers Noé qui construisait une arche. Oui, c'est pour que ça flotte sur l'eau, parce qu'il y a de l'eau qui va venir du ciel. Les gens, ils devaient se taper sur les cuisses de rire. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas possible. Et j'imagine que quand le déluge a commencé, ça a été très, 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 très surprenant pour tout le monde. Et il n'y a pas eu beaucoup de rescapés. Il y a eu Noé, sa famille et un couple de chaque espèce d'animaux. Dieu prend soin des animaux. Et l'alimentation change à partir de là. À partir de là, on cesse d'être végétarien, on devient carnivore. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, qui est son frère. L'humanité, après le déluge, elle est omnivore. Mange tout, y compris les animaux. Et il n'y a pas de restriction dans ce passage, pas ceux-ci, seulement ceux-là. C'est avec Moïse qu'il y aura une distinction entre les animaux purs et impurs. Ici, cette distinction n'est pas encore faite. Et nous sommes dans ce régime d'après le déluge, nous-mêmes. Et les animaux ont peur de nous. On est un sujet d'effroi pour eux. Il faut vraiment les apprivoiser pour qu'ils n'aient plus peur. Donc, c'est légitime, c'est même dans l'ordre voulu par Dieu, à partir de là, de consommer des animaux, de manger des animaux, de manger de la viande. Et vous souvenez peut-être aussi, quand il est question de la terre promise, c'est un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, deux produits d'origine animale. Ça fait partie de la terre promise, ça fait partie des bénédictions voulues par Dieu. Je crois qu'il y a vraiment une tendresse, malgré cela, une tendresse de Dieu pour les animaux. J'en veux pour indice un verset à la fin du livre de Jonas. Jonas qui s'énerve tout le temps parce que son ricin ou son arbre pousse. Ah, il n'avait rien vu, il pousse. C'est le moment, quoi. Et puis après, il se dessèche, alors il est de nouveau fâché, etc. Et Dieu lui dit, mais T'as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Parce que Jonas râle parce qu'en fait, Dieu ne va pas détruire Ninive qui s'est repentie. Lui, il venait et puis il voulait assister au spectacle après du feu du ciel qui tombait sur Ninive. Et puis non, il a été envoyé pour prêcher à Ninive. Il l'a fait à contre-cœur, mais les gens de Ninive se sont repentis et le châtiment annoncé n'avait plus lieu d'être. 120 000 êtres humains et un grand nombre d'animaux. Ça vaut la peine de les préserver. Plus tard, enfin, j'ai dit que la loi donnée par l'intermédiaire de Moïse établissait une classification entre les animaux purs et les animaux impurs. Par exemple, le porc, le cochon n'est pas un animal pur, selon cette classification. Les fruits de mer non plus. Donc, en principe, les Juifs et probablement aussi les musulmans qui ont dû reprendre ces passages s'abstiennent de ces aliments. Mais il y a eu un moment où cette restriction a été levée, a été supprimée. Et ce moment, c'est dans le livre des Actes qu'on le voit, parce que l'apôtre Pierre reçoit une vision qui lui explique qu'il n'y a plus de raison de distinguer entre les animaux purs et les animaux impurs. Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision. » Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. Cela est arrivé trois fois, puis tout a été retiré dans le ciel. » Actes 11, 4 à 10. Et donc, nous avons, en tant que chrétiens, l'autorisation, le droit de manger de tous les animaux. La seule restriction qui reste, c'est de ne pas manger le sang. Ça, c'est encore redit dans le Nouveau Testament. Donc, vous pouvez manger du cochon, mais le boudin, peut-être, vaut mieux pas. Ou les animaux étouffés dans lesquels le sang reste. Ça, c'est encore redit dans le Nouveau Testament. Bon, cela dit, j'expliquais tout à l'heure que le péché avait abîmé toute la création. Parce que à partir du moment où l'homme a pu manger des animaux, après le déluge, les animaux ont aussi commencé à s'entre-dévorer, à se prendre les uns les autres comme proie, et la nature est devenue extrêmement violente. Je crois que quand on s'extasie devant la nature et les gentils animaux, etc., je trouve pas, personnellement, et il n'y a qu'à voir à quel point Les animaux sauvages sont tout le temps sur leur garde, tout le temps aux aguets, à veiller à ce qu'il ne leur arrive pas de mal, qu'un prédateur ne vienne pas s'emparer d'eux ou de leurs petits, etc. C'est dur, la vie animale. C'est peut-être plus facile pour le chat que vous avez à la maison, qui pense que vous êtes chez lui d'ailleurs, et pas lui chez vous. Là, ça, c'est différent. Mais, non, je trouve que la vie animale, elle est pas si idyllique que certains ne l'imaginent. C'est une situation difficile, qui est insatisfaisante. Toute la création souffre, animaux compris. Et il y a un verset tout à fait, il y a des versets étonnants dans Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent, dit Paul, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'on appelle cette révélation des fils de Dieu, sinon en tout cas la communication de la bonne nouvelle, l'évangile, ça en tout cas. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On est dans une situation intermédiaire. On est en passage vers quelque chose qui est promis et qui sera grand, mais c'est comme les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas facile. Pour personne. Et pour les animaux non plus. Et pour la nature non plus. Et on a l'impression que les douleurs augmentent. Il y a des promesses magnifiques dans Ésaïe. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Ça, c'est pour notre avenir glorieux. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le loup. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Le serpent, ça ne s'arrange pas beaucoup. Mais ça, on ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ce sont des prophéties dans Ésaïe. Cette prophétie d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, elle est reprise par Pierre aussi, dans le chapitre 2, dans le 2 Pierre. Je n'ai pas reproduit le verset ici. 2 Pierre 3, versets 12 à 13. Il y a cette promesse qu'il y aura de nouveaux cieux, nouvelle terre, et tout ce qui se passe actuellement entre nous et les animaux, entre les animaux, cela sera fini. Il y aura des agneaux, il y aura des loups, des lions et des bœufs. Mais ils vont de nouveau retrouver un régime végétal. Et nous ? Nous avons l'espérance d'être attablés au festin des noces de l'agneau. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je sais qu'il y aura du vin. Parce que Jésus dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant ce moment-là. Et jusqu'à nouvel avis, c'est compliqué de conserver du jus de raisin. C'est plus facile s'il fermente, ça se conserve mieux après. Bon, je pense qu'il y aura du vin. Est-ce qu'il y aura de la viande ? À mon avis, on sera vegan au festin des noces de l'agneau. Il y aura probablement pas de viande. Je vois pas si est rétabli l'équilibre de la tel qu'il a été voulu dans la création première. Je doute qu'on mange de la viande, mais je me fais pas de soucis. Je pense que ce sera très bon quand même. En attendant. Je ne sais pas si... Il y a eu des époques où les pasteurs parlaient tout le temps du rôti du dimanche. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a un rôti qui attend à la maison parmi vous ? Personne. C'est un mythe. C'est un mythe. Le rôti du dimanche, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui reste à la maison pour le préparer, ou alors qu'il faut savoir programmer vachement bien sa cuisinière, hein, et en avoir une comme ça. Non, non, le rôti du dimanche. Mais enfin... Bon appétit quand même, vous verrez bien ce que vous avez à manger en rentrant à la maison. Quoi. C'est ma conclusion, cette histoire d'espérance, de nouveaux cieux, nouvelle terre, avec la restauration, la pleine bénédiction que Dieu voulait pour sa création. Et c'est quelque chose qui nous est promis. Comment ça va se passer, comment on y arrivera, dans quel état, avec quel corps. Moi, je crois que j'ai décidé que j'attendais pour voir, que je me laisserais surprendre et j'ai confiance. Donc, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Mon seul souci, c'est d'y être. Et j'espère qu'on pourra faire une bonne tablée avec vous tous et vous toutes ce jour-là pour se réjouir dans le Seigneur. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vais prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es vivant, parce que tu prends soin de nous, parce que tu ne nous as pas rejetés, parce qu'à chaque moment tu as mis en place des solutions de secours pour que nous vivions, des solutions forcément imparfaites parce que nous avons, par nos actes, par nos attitudes, par notre péché, abîmé ta création et probablement que nous continuons de le faire. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta grâce, te remercier pour tes bienfaits, pour ta prévenance envers nous et te prier de nous aider à prendre les bonnes décisions dans ce que nous faisons, dans ce que nous préparons pour nos repas, dans toutes nos activités, Seigneur, afin que le jour venu, nous puissions nous réjouir avec toi dans ton royaume et partager avec toi ce festin qui nous est promis et dont nous nous réjouissons beaucoup. Que ton nom soit béni. Amen.